If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Au sommaire de cette édition, l'Australie va fabriquer des missiles de frappe de longue portée avec l'ouverture d'une usine d'armement à Newcastle. En France, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal propose de geler le budget pour 2025 et se positionne pour la présidence du parti présidentiel. Et l'Union européenne veut augmenter ses taxes sur les voitures électriques fabriquées en Chine. L'Australie va construire des missiles de frappe longue portée dans une nouvelle usine à Newcastle. Le gouvernement annonce qu'il va contribuer à hauteur de 850 millions de dollars à ce projet en partenariat avec l'entreprise Kongsberg Defence Australia. Le projet implique la construction d'une usine qui va fabriquer et entretenir les missiles navals et des missiles de frappe longue portée. Ce projet devrait générer plus de 500 emplois pendant la phase de construction et générer près de 100 millions de dollars en avantages économiques pour la région. Le ministre de la Défense, Pat Conroy, déclare que cela aidera également l'Australie à accroître son autonomie.
Manufacturing of these missiles represents our investment in Australia's advanced, high-tech manufacturing industry in line with the government's Made in Australia agenda. This is only the second factory in the world outside a Norwegian factory that will build joint strike missiles and naval strike missiles. The factory will be in the Newcastle Airport precinct. Once operational, the factory will employ approximately 100 people in very high-skill, high-tech work.
Des locataires aborigènes des logements sociaux dans les régions reculées d'Australie occidentale ont lancé un recours collectif contre les autorités de l'État. Des milliers de personnes font partie de ce recours collectif qui accuse l'Office du logement de l'État d'Australie occidentale d'avoir profité des locataires autochtones en leur facturant des loyers élevés pour des propriétés de mauvaise qualité. La plainte affirme que l'État et l'Office du logement n'ont pas entretenu, réparé et amélioré leurs propriétés ni fourni de logements sûrs, confortables et sécurisés. Le demandeur principal et les membres du groupe réclament une compensation financière ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour rectifier les défauts et problèmes des logements. La chef de la communauté des Bayoulou, Vivienne Cordon, déclare que la situation a été frustrante.
Yes, we are paying rent in our communities, and I think with anywhere, if you are paying rent, then you have the right to get everything fixed in your property. We want to make sure that families have got everything working in the property, especially with the plumbing issues, issues where we still don't have hot water in some of the houses. We want to make sure our elders are looked after and that they're living in their properties at a good standard.
En France, avec beaucoup de retard sur le calendrier habituel, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a transmis mardi 20 août les lettres plafond indiquant au ministère leur crédit de dépenses pour l'année 2025. Gabriel Attal propose les mêmes crédits que l'an dernier, 492 milliards d'euros de dépenses, ce qui équivaut à 10 milliards d'économies au vu de l'inflation. Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas encore nommé un ou une nouvelle première ministre, plusieurs responsables de gauche dénoncent l'envoi de ces lettres plafond. Le camp présidentiel défend, lui, une simple base de travail avant le débat budgétaire au Parlement. Et si Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un premier ministre, les macronistes, eux, se cherchent un chef. L'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, s'est déclarée candidate pour la présidence du parti Renaissance, un rôle que pourrait aussi convoiter Gabriel Attal, qui est déjà président du groupe à l'Assemblée nationale. Valérie Gasse, RFI.
Premier ministre démissionnaire depuis le 16 juillet, Gabriel Attal finit sa mission à Matignon en se chargeant de gérer les affaires courantes avec application. Entre les JO, où il s'est affiché comme un ardent supporter des athlètes français, et la préparation du budget en envoyant les lettres plafond au ministère, il a continué à jouer les bons élèves, sa marque de fabrique, pour ne surtout pas être pris en défaut de responsabilité, alors qu'Emmanuel Macron, avec lequel ses relations sont glaciales depuis la dissolution, tarde à choisir le nouveau local. De Matignon. Gabriel Attal assure la transition et prépare la suite. Il s'est fait élire chef des députés Renaissance à l'Assemblée, un poste stratégique convoité par son rival Gérald Darmanin. Lui qui s'était fait connaître des Français comme ministre de l'Éducation nationale en interdisant l'abaya à l'école, n'a pas eu le temps en 7 mois d'imprimer réellement sa marque à Matignon. Il a surtout su endosser les habits de chef de campagne aux européennes et aux législatives. Gabriel Attal doit maintenant se construire un programme et une écurie pour tourner la page Macron.
Le plus grand projet d'énergie renouvelable jamais réalisé en Australie a obtenu l'approbation environnementale du gouvernement fédéral. Le projet Sun Cable Australia et Japan Link comprendra une ferme solaire de 4 gigawatts, une ligne de transmission de 800 km et un câble sous-marin. La ferme solaire de 12 000 hectares a le potentiel d'alimenter 3 millions de foyers, mais comme l'explique Justine Fontaine, une partie de cette énergie sera exportée à Singapour.
Pas de quoi égaler les gigantesques centrales solaires chinoises ou indiennes déjà annoncées, mais le projet Sun Cable s'étalera tout de même sur une surface plus grande que la ville de Paris tout entière, dans une région très peu peuplée du nord de l'Australie. Des panneaux solaires et des batteries qui pourront approvisionner en électricité l'équivalent de 3 millions de foyers. L'énergie sera destinée principalement au nord du pays donc, mais aussi à Singapour via un câble sous-marin de plusieurs milliers de kilomètres. La cité-état cherche à s'affranchir du gaz. Et avec ce projet, près de 15% de son électricité tout de même viendrait d'Australie. Canberra, pour sa part, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle doit donc multiplier les investissements dans les énergies renouvelables, alors que son économie repose encore en bonne partie sur le charbon, très polluant. 45% de son électricité vient de ce minerai, dont elle est aussi le premier exportateur mondial.
Et plus de 100 avocats et juristes appellent l'Australie à revoir ses liens économiques avec Israël. Ils font référence à une récente décision de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans une lettre ouverte, ils exhortent le gouvernement australien à imposer un embargo sur les armes et l'énergie, mais aussi à suspendre les investissements et les liens commerciaux qui pourraient favoriser les pratiques illégales d'Israël. Les signataires soutiennent que cette démarche permettrait à l'Australie de se conformer à ses obligations juridiques internationales. Le gouvernement israélien a de son côté rejeté la décision de la CIJ, la qualifiant de partiale. Et le personnel hospitalier à Gaza affirme qu'au moins 17 personnes ont été tuées dans des frappes des chars et des drones israéliens dans le centre et le sud de l'enclave palestinienne. Le bilan des morts a été confirmé par des journalistes de l'Associated Press qui ont compté les corps. Pendant ce temps, le Hezbollah a lancé plus de 50 roquettes touchant plusieurs maisons dans les hauteurs du Golan annexé par Israël. Le Hezbollah a déclaré que ces attaques étaient une réponse à une frappe israélienne en profondeur au Liban dans la nuit de mardi. Et aux États-Unis, au moins 55 manifestants ont été arrêtés devant le consulat israélien à Chicago lors de la deuxième nuit de la Convention nationale démocrate. Le chef de la police de Chicago, Larry Snelling, déclare que son département a tenté de désamorcer la situation, mais n'a pas réussi à prévenir les affrontements.
We declared a mass arrest after our officers were physically confronted and attacked. We were not the initiators of violence, but we responded to it. And our officers responded exactly the way that they were trained to respond.
Le groupe de manifestants pro-palestiniens exprimait son opposition au soutien continu de Washington à Israël dans sa guerre contre Gaza. Et la campagne électorale américaine est aussi très suivie au Proche-Orient, où l'administration Biden tente toujours d'arracher un cessez-le-feu à Gaza sans pour autant renoncer à soutenir et armer Israël, ce qui suscite des critiques au sein de l'électorat progressiste américain. Écoutez ce qu'en pense Ahmad Mouna, un habitant de Jérusalem-Est, une partie du territoire palestinien occupé et annexé par Israël. Ahmad Mouna est au micro de Nicolas Falaise de RFI.
En tant que Palestinien, j'ai appris tout au long de ma vie que nous ne devions compter sur personne. Beaucoup de pays, surtout occidentaux, ont laissé tomber les Palestiniens encore et encore. Le Parti démocrate américain ne va pas sauver la Palestine. Il ne va pas libérer la Palestine. Il ne va pas mettre un terme à l'occupation. Il ne va pas faire sortir les détenus palestiniens des prisons israéliennes. Jamais. Le soutien à l'État d'Israël et à sa sécurité est un engagement de la politique étrangère des États-Unis. Ce que nous pouvons espérer peut-être, c'est une légère inflexion de leur attitude envers Israël, une légère inflexion de ce soutien inconditionnel. Ce que nous pouvons espérer, c'est une sorte de restriction dans le type d'armes que les États-Unis vendent à Israël, une limitation de ces armes qu'Israël a achetées aux États-Unis et qui ont été utilisées en violation des lois de la guerre pour commettre des crimes contre l'humanité.
L'Union européenne prévoit de taxer les importations des voitures électriques chinoises jusqu'à 36% pendant 5 ans. Ces droits de douane, qui s'ajoutent aux taxes de 10% déjà appliquées aux véhicules fabriqués en Chine, pourraient entrer en vigueur d'ici à la fin d'octobre. Pékin proteste et prévoit des contre-mesures en lançant notamment une enquête anti-dumping sur certaines exportations européennes. Claire Brodrest, RFI.
Cette enquête annoncée par le ministère chinois du commerce vise des produits tels que le fromage frais ou le fromage fondu ainsi que le lait concentré et elle pourrait durer un an. Il s'agit là de déterminer si ces produits laitiers européens ont bénéficié de subventions qui nuisent aux producteurs chinois, ce qui pourrait déboucher sur des contre-mesures si le gouvernement chinois trouve des preuves de pratiques déloyales. Cette décision est considérée comme une réponse directe aux mesures prises par l'Union européenne à l'encontre des véhicules électriques chinois et marque une escalade significative dans les tensions commerciales entre les deux géants économiques. Une guerre commerciale pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans les secteurs fortement tributaires du commerce international tels que l'automobile et l'agriculture. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les fabricants et les consommateurs, avec des pénuries potentielles de marchandises ou des prix plus élevés en raison des droits de douane. Si la situation s'aggrave, l'Organisation mondiale du commerce pourrait être impliquée dans des procédures de règlement des différends, ce qui peut potentiellement prendre des années à régler.
Et retour en Australie, où l'autorité australienne des surveillances financières déclare qu'elle sévit contre la façon dont les compagnies d'assurance réagissent au changement climatique, les inondations étant désormais l'urgence la plus chère à assurer. Environ 1,2 million de propriétés sont exposées à divers niveaux de risque d'inondation et la semaine dernière, le Conseil des assurances d'Australie a publié les données montrant que les assureurs avaient versé plus de 2 milliards de dollars en indemnisation liée aux conditions météorologiques extrêmes au cours du dernier exercice financier. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ASIC, s'est engagée à prendre des mesures contre les entreprises qui agissent de manière inappropriée dans la vente de produits et le traitement des réclamations et dans sa ligne de mire, les polices d'assurance nuisibles, en particulier des produits d'assurance vie inadaptés. Et pour conclure l'actualité, une page météo. Adélaïde, averse en diminution, 18 degrés. Melbourne, une ou deux averses en diminution, 17 degrés. Hobart, une ou deux averses également et 16 degrés. Canberra, possibilité d'averse et 17 degrés. Wollongong, temps nuageux, 20 degrés. Sydney, également nuageux et 22 degrés. Temps partiellement couvert à Newcastle avec un maximum de 23 degrés et il fait un temps principalement ensoleillé à Brisbane avec un maximum de 27 degrés. 15, partiellement nuageux, 28 degrés. Et à Darwin, temps principalement ensoleillé et 34 degrés. C'est tout pour l'actualité de ce jeudi 22 août. Nous marquons une courte pause et puis nous retrouvons Jean-Noël Ducasse pour le magazine des sports.
«
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.